Vous êtes sur RTL.
Faire.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h44 et Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Le pass sanitaire européen entre en vigueur demain. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous ?
Alors ça veut dire qu'à partir du 1er juillet, tous les pays européens vont reconnaître le pass que des millions de Français ont déjà dans leur téléphone ou sur le papier pour voyager en Europe.
On devra présenter l'application anti-Covid ou un papier ?
Alors exactement, vous aurez, pour ceux qui ont été vaccinés ou qui vont faire un test, s'ils n'ont pas encore été vaccinés, quand vous faites le test par exemple, vous avez un code. Et si vous suivez le lien, pour être très concret, vous aurez dans tous anti-Covid un QR code, comme on l'appelle, un code qui sera reconnu partout en Europe. C'est le même format qui protège vos données, qui reconnaît si vous êtes vacciné complètement ou si vous avez fait un test à défaut d'être complètement vacciné.
Alors ça, on nous le demande où ? À l'aéroport, à la frontière ?
Alors on vous le demande à l'embarquement. Si vous faites un vol Paris-Madrid, par exemple, on vous le demandera à Paris, à l'embarquement, pour le vérifier. Ce format, il est harmonisé. On dit c'est une contrainte. Oui. Je veux être précis. C'est au contraire de la liberté supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, parce qu'on a dû le faire pour se protéger, il y a des restrictions pour voyager. Ce qu'on fait avec ce pass, c'est qu'on a un même format simple que vous avez sur votre téléphone ou sur une feuille de papier si vous n'avez pas de smartphone, comme on dit. Et ça vous permet d'être la même chose, d'avoir la même chose, le même format partout en Europe pour cet été.
Alors, compte tenu de la propagation du variant Delta, le variant indien très contagieux, on se dit mais les pays vont être obligés de s'adapter.
Alors, c'est pour ça d'abord, indépendamment même du variant Delta, mais ça conforte notre prudence, qu'on n'a pas rouvert complètement, dans le sens où vous avez justement besoin, même en Europe, encore aujourd'hui, soit d'un test, soit d'une preuve de vaccination pour voyager. Avec ce format, ça simplifie, mais ça ne lève pas cette contrainte sanitaire nécessaire qui est vaccination ou test.
Voilà.
Ce qui veut dire que quand vous allez faire votre voyage pour une raison professionnelle ou touristique en Europe, on vérifie tout ça. Et ça veut dire aussi qu'on a des mesures de prudence. Je prends un exemple très concret. Dans ce pass sanitaire, ce qui est reconnu comme une vaccination, c'est si vous avez l'un des 4 vaccins qu'on utilise en France, l'un des 4 vaccins qui sont aujourd'hui reconnus par l'Agence européenne des médicaments, parce qu'on pense que les autres, qui n'ont pas été approuvés scientifiquement en Europe, c'est pas une question politique.
Ça, c'est ce que fait la Grèce, par exemple. Alors, accepte le vaccin chinois ou le vaccin russe.
Oui, il y a 3 pays en Europe aujourd'hui qui sont plus laxistes, je crois qu'ils le sont trop, pour être honnête, et qui acceptent non seulement les 4 vaccins qu'on connaît en France, Pfizer, etc., mais aussi le vaccin russe ou le vaccin chinois. Nous ne le faisons pas en France, ce qui veut dire que quand vous êtes un touriste européen ou a fortiori étranger, même si vous voyagez au sein de l'Europe, si vous allez d'Athènes à Paris, par exemple, nous, quand on vérifie votre entrée sur le territoire français, on accepte uniquement un des 4 vaccins qui sont validés, pas le russe, pas le chinois, pas parce qu'on a envie d'être agressif à l'égard des Russes et des Chinois, mais parce qu'on n'a pas la garantie que ces vaccins sont suffisamment protecteurs.
Mais alors, pardonnez-moi d'insister sur le variant Delta, puisqu'on en parle beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec un voyageur qui vient d'Angleterre ou du Portugal, par exemple, où le virus circule beaucoup en ce moment ? Et il est très contagieux, je le répète.
Alors, ce sont 2 cas différents. Le Royaume-Uni, notamment pour cette raison, on a continué à classer dans la zone, dans la catégorie orange. Concrètement, ça veut dire que même quand vous êtes vacciné, quand vous venez du Royaume-Uni, vous devez avoir en plus un test. On prend une sorte de précaution supplémentaire. Et si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez faire un test, mais vous devez avoir ce qu'on appelle un motif impérieux, c'est-à-dire une raison restrictive pour accéder au territoire français. Donc on est plus restrictif avec le Royaume-Uni qu'avec les autres pays européens. Le Portugal, c'est un pays de l'Union européenne. À ce stade, nous appliquons les mêmes règles qu'avec tous les autres pays de l'Union européenne, c'est-à-dire catégorie verte, vaccination ou test. On regarde la situation. On n'exclut pas que vis-à-vis de certains pays européens, on doive durcir les mesures si c'est sanitairement nécessaire. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas.
Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes, est-ce que le test PCR va continuer d'être remboursé en France ?
Alors, le test PCR, il est aujourd'hui gratuit en France, le test antigénique aussi. Je le souligne, c'est une spécificité française. Il n'y a que 2 pays en Europe qui le font, la France et le Danemark. Nous, c'est gratuit depuis le début. Ça reste gratuit.
Mais ça pourrait pousser des gens à se faire vacciner s'il n'était pas gratuit.
Oui, mais pour l'instant, je crois qu'on a aussi intérêt à dépister le plus possible pour détecter la circulation du virus, notamment du variant. Peut-être que cela évoluera dans les prochaines semaines, notamment après l'été. parce que, en effet, c'est d'abord coûteux, et puis surtout, il faut en effet inciter à la vaccination. Mais pour l'instant, je veux être clair, les tests, c'est un avantage, je crois, sanitaire pour la France, oui. pour les Français. Il reste gratuit. Quand on dit gratuit, attention, hein, ça veut dire qu'il est pris en charge par la solidarité collective,
Tout
parce
à
que
fait.
Ça a quand même un coût.
C'est bon de le rappeler. À terme, est-ce que c'est le vaccin seul qui pourrait constituer le pass sanitaire ?
Alors pour l'instant, non, on a été très clair sur le fait que ce n'est pas un pass vaccinal. Il y a eu beaucoup de débats, on nous a expliqué qu'on forçait les gens.
On ne sera jamais interdit de voyager parce que
non, pour l'instant, non.
On refuse de se faire vacciner.
C'est très clair, c'est la règle européenne qu'on a définie, qui est la même pour tout le monde, c'est test ou vaccin. Test ou vaccin. Et c'est normal parce que quand vous avez aujourd'hui moins de 18 ans, par exemple, vous n'avez pas, sauf cas assez rares, massivement accès à la vaccination parce qu'on a commencé plus tard. Donc on ne veut pas non plus empêcher les gens de, pour des raisons professionnelles ou même touristiques, se déplacer en Europe. Donc test ou vaccin.
Test ou vaccin. Clément Beaune, le dernier Conseil européen était quelque peu bousculé par une polémique créée par Viktor Orban, le dirigeant hongrois, à propos de sa loi sur l'homosexualité, jugée contraire aux valeurs de l'Europe. Ce n'est pas la première fois que Orban tente de se démarquer des Européens. Est-ce que cette fois, il va y avoir des sanctions ?
Je l'espère.
Financières ?
Je l'espère, oui.
C'est-à-dire ?
Nous avons engagé des procédures juridiques contre la Hongrie. Je vais vous le dire franchement, c'est trop long et c'est trop faible, nos procédures européennes pour sanctionner. Face à des lois de cette nature qui sont un scandale, qui ne sont pas, c'est pas une ingérence que je fais dans la vie politique hongroise, c'est leur droit. Mais ils ont adhéré à l'Union européenne, il y a des valeurs communes. Et là, c'est une discrimination, tout simplement.
Mais il n'y a pas que la Hongrie, hein. Il y a la Pologne.
Bien sûr, il y a la Pologne, je l'ai dénoncé aussi.
La Slovénie. D'ailleurs, ils disent que les autres pays d'Europe sont en cours d'américanisation des valeurs.
Mais
je crois
que c'est une stratégie de diversion. Ces valeurs, elles sont profondément européennes. C'est écrit dans nos traités européens depuis 1957. On n'a pas inventé ça la semaine dernière. L'égalité, la non-discrimination. Pourquoi on a des procédures qui sont longues et compliquées aujourd'hui en Europe ? Parce qu'on ne pensait pas qu'un pays qui rejoignait l'Union européenne dans un projet politique sur ces valeurs, qui avait connu le communisme et le joug soviétique, puisse avoir des reculs de cette nature.
Mais et alors, donc, Orban a toute sa place en Europe ? Parce que certains disent que non.
Je vais vous dire, je ne suis pas pour l'exclusion de la Hongrie de l'Union européenne. Parce que d'abord, ça serait d'une certaine façon trop facile. Ils auraient gagné. Et il y a des millions de personnes en Hongrie, des associations, j'en rencontre régulièrement, qui se battent pour défendre ces valeurs. Ils ont droit à ces valeurs européennes. Et donc, moi, je préfère qu'on ait des sanctions, qu'on ait une très grande fermeté. C'est la première fois qu'au niveau des chefs d'État et de gouvernement, on a eu un débat aussi dur, violent, pour dire à M. Orban, c'est inacceptable. Maintenant, il faut passer aux actes. On peut avoir
c'est
des sanctions
quand, alors,
dans les prochains mois,
ouais.
dans les prochains mois, mais c'est trop long et les sanctions financières ne sont pas assez puissantes, il faut le dire clairement. Je souhaite que sous la présidence française de l'Union européenne, qui commence l'année prochaine, début 2022, on rouvre ce débat. L'état de droit, comme on dit de manière un peu froide, c'est-à-dire les valeurs,
ouais.
c'est au cœur du projet politique
européen. Sanctions puissantes, c'est quoi ?
Ben, ça veut dire que je souhaiterais qu'on ait des outils qui permettent, quand il y a une loi de cette nature, que très vite, en quelques jours ou quelques semaines, on puisse avoir une suspension des financements européens. Moi, je ne peux pas expliquer aux Français qu'on paye la solidarité européenne, et c'est normal. Je la défends tous les jours, solidarité budgétaire à l'égard de la Pologne et de la Hongrie, par exemple, mais qu'ils se fichent de nos valeurs. Ça, c'est pas possible.
Clément Beaune, en plus d'être secrétaire d'État aux Affaires européennes, vous planchez aussi sur le futur projet présidentiel d'Emmanuel Macron pour 2022. On entend parler de réforme des retraites, du recul à 64 ans de l'âge de départ. C'est une option ?
Écoutez,
c'est sérieux ? C'est un ballon d'essai ?
Non, je ne sais pas, je ne veux pas commenter parce qu'il y a beaucoup de rumeurs.
Vous le souhaiteriez ?
Moi, je souhaite qu'on fasse des réformes jusqu'au bout. Je fais partie de ceux qui pensent que s'arrêter, lever le stylo, ce ne serait pas conforme à notre promesse politique, à l'ADN du président. Et je crois que c'est risqué de faire des réformes. Je ne parle pas seulement des retraites. On l'a vu aujourd'hui avec la haute fonction publique, c'est parfois difficile. Mais c'est profondément notre identité politique et celle du président.
Mais Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, dit que pour faire une réforme comme ça, il faut un capital politique.
Oui, mais c'est quand même paradoxal aujourd'hui que ce soit les chefs d'entreprise, le représentant des chefs d'entreprise français qui nous dit arrêtez de faire des réformes économiques. On peut discuter des paramètres, du calendrier, etc. Tout ça, bien sûr.
Et dire qu'on a les gilets jaunes quand même.
Bien sûr, mais faire une réforme des retraites, on sait que ce sera nécessaire. Avant le Covid, le président de la République, le gouvernement l'avait engagé. On travaillait sur
Attendez,
un nouveau projet.
Attendez, c'était pas promis par Emmanuel Macron. Puis effectivement, ça a été annoncé. Mais ce qui a été annoncé, Clément Beaune, c'est une réforme du système, pas une réforme financière.
Alors vous avez raison, mais d'abord, il y a
là,
eu.
Là, avec 64 ans, c'est
non,
une
mais
réforme
il y a eu une annonce de réforme des retraites dans le programme présidentiel qui était la fusion des régimes pour plus d'équité. Et puis il y a eu ensuite, par le Conseil d'orientation des retraites, un rapport indépendant qui a dit qu'il y avait une situation financière plus dégradée qu'on pensait. C'est pour ça que la réforme qui avait été présentée il y a un peu plus de deux ans, elle avait les deux. Une réforme du système, comme on dit, pour cette transparence et cette équité, et puis des mesures de financement. On aura besoin des deux. Quand, comment, je ne sais pas vous le dire aujourd'hui, c'est une décision que prendra le président de la République.
Quand le président va-t-il prendre la parole?
Je ne sais pas, mais...
La semaine prochaine?
Je ne sais pas. Je ne sais pas vous le dire. C'est lui qui le décidera. Mais il s'exprimera certainement bientôt. Et surtout, il tracera une feuille de route. Mais moi, je ne crois pas qu'on
il
puisse...
Il va jouer son va-tout.
Je ne sais pas s'il faut appeler ça un va-tout. Mais je crois que le président l'a déjà montré dans le passé. Il sait qu'on a besoin de prendre des risques. Il l'a promis toujours. Cela
malgré un échec au régional et au départemental.
C'est pas un échec d'une politique de réforme, attention. C'est un échec démocratique collectif. Ça a été une très mauvaise nouvelle pour la majorité, ça je le conçois. Je crois que ça ne veut pas dire que les gens pensent qu'il ne faut pas de réforme dans ce pays. Après la crise, il faut de l'apaisement, mais il faut aussi certainement continuer l'effort de transformation.
Merci beaucoup Clément Beaune.
Merci à vous.
Test ou vaccin donc dans toute l'Europe pour obtenir son pass sanitaire dans l'Union européenne dès demain le 1er juillet sur la Hongrie. On ne peut pas toucher l'argent européen et bafouer ses valeurs, vient de nous dire Clément Beaune. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.